disais, je voudrais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Je répète, est-ce que vous voyez bien? Alors, pourquoi cette question? Ceux qui portent des lunettes maintenant vont comprendre pourquoi je pose cette question. Il y a quelques années, j'ai ouvert la Bible, comme certains le font, et puis j'ai approché, j'ai reculé, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et voilà, je vois de moins en moins. Et ma réaction a été assez rapide, donc je suis allé voir un spécialiste, et qui m'a dit gentiment, monsieur Bercou, c'est normal. Vous arrivez à un certain âge, votre vision baisse, donc vous avez besoin de l'améliorer en portant des lunettes. Bon, alors je me suis dit dans mon cœur, ben, il est temps pour moi, puisque ma vision baisse. Alors pour ceux qui n'en ont pas, que Dieu vous bénisse sans les lunettes, mais pour ceux qui en ont, vont me comprendre quand je vais dire que la première fois que j'ai mis les lunettes sur mon nez, j'ai eu besoin de m'adapter. Et vous avez un geste que les gens qui portent des lunettes font assez régulièrement. Et ils regardent si c'est sale, si ce sont propres, si c'est bien à la bonne hauteur. Et régulièrement, on a un geste qui devient un geste mécanique, c'est-à-dire que quand on porte des lunettes, enfin pour ceux qui portent des lunettes, on a, si vous voulez, dans le centre ici, et c'est l'oculiste qui nous le fait, c'est-à-dire qu'on doit mettre la vision pour bien voir quand on met les lunettes. Alors je vais essayer de bien mettre mes lunettes pour bien vous voir et pour voir la prédication de ce matin. Est-ce que nous voyons bien? Je répète la question. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, en étudiant encore une fois cette prédication pour ce matin, ce verset pour ce matin, eh bien, j'ai essayé de bien voir durant la semaine tous les versets que j'étais en train de lire dans la parole de Dieu par rapport à la bonté et à la bienveillance. Parce que ce sont deux mots que j'ai mis ensemble ce matin, qui font partie de la même famille, et c'est pour cette raison que nous allons les aborder ensemble. Dans la parole de Dieu, on a du mal à les distinguer, parce que selon certaines versions de la Bible, eh bien, ils sont interchangeables. Donc certaines parlent parfois de bienveillance, d'autres parlent parfois de bonté, et souvent, parfois, ces mots se changent selon les versions de la parole de Dieu. Alors, on va les mettre ensemble, si vous voulez, ces deux mots aujourd'hui, et on va essayer de voir un petit peu cette bonté et cette bienveillance selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne? Tout d'abord, que vous connaissez peut-être ce verset, un jour on est venu voir Jésus et on lui a dit « Bon maître, quelle a été la réponse de Jésus? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est que Dieu seul. » Marc chapitre 10, verset 18. Alors, c'est pas que Jésus niait sa divinité, non pas du tout, c'est qu'il voulait simplement faire réfléchir cet homme à ce qu'il était en train de vivre par rapport à la bonté. Et je pense que nous avons besoin parfois de mettre des lunettes en tant que chrétien pour comprendre vraiment la bonté de Dieu, pour regarder ce que la parole de Dieu dit sur la bonté et sur sa bienveillance. On a besoin parfois de redresser les lunettes pour mettre bien la vision entre Dieu et nous, pour que nous puissions vraiment bien comprendre ce mot dans la parole de Dieu.
Le mot en grec bonté ou bienveillance sont des mots qui sont rares, rarement employés, en tout cas. Il est à la fois quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui fait le bien. C'est-à-dire que ces deux choses, ces deux attitudes sont parallèles dans la parole de Dieu. Le mot bonté et bienveillance manifeste donc une vertu dans l'action de le faire, d'accord, mais aussi dans une tendance naturelle du vouloir de la personne. C'est-à-dire que naturellement la personne est bonne ou bon dans son cœur, donc il va manifester. Donc on peut les voir dans l'essentiel quand on lit ces mots-là dans la parole de Dieu, eh bien on voit que ça caractérise autant le moral que l'éthique. Et dans la parole de Dieu, nous voyons cela par exemple d'une église. L'église était, Paul était l'a loué, l'église de Rome, et voici ce que Paul dit sur cette église. Pour ce qui concerne mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonté. Et il parle de l'église de Rome, c'est-à-dire qu'il est en train de faire l'analyse de l'église de Rome. Et pour Paul, l'église de Rome est une église qui est pleine de bonté. Alors, je ne sais pas si on vous a déjà caractérisé par la bonté, mais l'apôtre Paul caractérise l'église de Rome par son attitude, parce qu'elle était pleine de bonté. Romains chapitre 15, verset 14. Il va enseigner, par contre, les Éphésiens à leur dire que cet aspect-là doit être vu dans votre Église. Et voici ce qu'il va dire aux Éphésiens, dans le chapitre 5, verset 9, 8 et 9. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quelque part, l'apôtre Paul est en train de leur dire, eh bien voilà, avant vous étiez ténèbres, vous n'étiez pas dans la lumière, maintenant vous devez marcher, donc en nouveauté de vie, avec toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et il va insister aussi dans une lettre aux Thessaloniciens, et il va dire à ces Thessaloniciens, c'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que votre Dieu vous rende digne de son appel, et qu'il accomplit en vous avec puissance tout dessein bienveillant de sa bonté et l'œuvre de votre foi, en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Seigneur et selon notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Donc, la bienveillance ou la bonté n'est pas seulement ce qu'on dit, mais c'est aussi ce qu'on fait. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez ce matin. Moi, je peux vous dire tout ce que vous voulez ce matin. Si à un moment donné, je vous ferme la porte, en sortant de cette église au nez, vous allez dire, mais ça sert à quoi tout ce que Nicolas vient de dire, puisqu'il n'a rien fait pour manifester la bonté à un moment donné en ouvrant la porte devant moi ou en fermant la porte, en claquant la porte devant le nez. Alors la question que je voudrais vous proposer ce matin, est-ce que vous voyez bien? Laissez-moi vous montrer ce que la Bible dit sur sa bonté. La Bible enseigne que Dieu est bon. Et Dieu l'a manifesté envers la création. On a parlé ce matin de la création. Et on a parlé aussi, je pense, que dans la création, l'homme fait partie de cela. Donc Dieu a manifesté sa bonté et exprime cela vis-à-vis de la création. Voici quelques versets que je trouve dans la parole de Dieu. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Ça mérite, en tant que chrétien, que nous y faisions attention à cette terre. Que on n'a pas besoin que notre monde nous dise ce que nous avons à faire par rapport à cette terre. La création, c'est Dieu qui l'a faite. Et nous devrions faire très attention à ce que Dieu nous a confié. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours. Psaume 100, verset 5. Souviens-toi de moi à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles à la justice. Psaume 25, verset 8, 7, 8 et 9. Est-ce que nous voyons bien la bonté de Dieu dans notre vie? Cette bonté, Dieu va la manifester par sa grandeur, son immense grandeur. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Psaume 31, verset 20. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Psaume 69, verset 17. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux nues. Psaume 36, verset 6. Et je pourrais continuer comme cela, des tas et des tas de versets. Dieu manifeste sa bonté dans l'éternité. Dieu manifeste sa bonté partout. Dieu aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. La terre est remplie de la bonté de Dieu. C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux quand je me lève, que je vois un lever de soleil, la terre est remplie de la beauté de Dieu, de la bienveillance. Il y a pris goût à la création de Dieu. Et je pense que nous devrions bien voir cet aspect dans notre vie. Il est constant, nous l'avons lu ce matin, Lamentation. Ce livre, pas beaucoup de chrétiens le lisent, parce que déjà, dès le titre, Lamentation de Jérémie, on se dit, si on va dans ce livre, on va se lamenter comme Jérémie. Mais voilà, vous avez un verset qui est très connu par les chrétiens. Et ce matin, il a été lu, et j'aime beaucoup ce verset aussi. Donc, ce n'est pas que je vais directement dans ce verset, mais la Bible, enfin, en tout cas, ce livre nous dit, dans le chapitre 3, verset 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. C'est pas formidable, ça? Et on se dit, je viens de citer uniquement que l'Ancien Testament. Je voudrais vous montrer assez rapidement, parce que le temps m'est compté, et je voudrais vous montrer quand même dans le Nouveau Testament que la bonté de l'Éternel s'est aussi manifestée. Elle s'est manifestée dans le Fils Jésus-Christ. Son Fils Jésus-Christ, le Seigneur nous montre dans le Nouveau Testament, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est pas de la bonté, ça? La Bible nous dit, dans Jean chapitre 14, verset 17, que le Seigneur ne nous laisse pas orphelins, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Il nous a laissé sa parole, 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Il nous demande aussi, il manifeste sa bonté dans son Église, par les dons, par les ministères. Oui, tout cela, nous le voyons dans la parole de Dieu. Dieu a manifesté sa grande bonté et sa bienveillance. La Bible nous parle aussi que Jésus-Christ a manifesté sa grande bonté durant le ministère qu'il a eu ici-bas. Il a manifesté sa bonté envers les malades, les pauvres, les enfants. Et même dans un contexte d'opposition, d'indifférence et d'incrédulité. Dieu a manifesté au travers de Jésus-Christ sa bienveillance et sa bonté. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Jésus est venu ici-bas sur cette terre sans rien espérer de l'humanité. Par contre, il a manifesté sa bonté constamment vis-à-vis de l'humanité. Alors, quelle va être ma réaction vis-à-vis de cette bonté divine? Quelle va être ma réaction? Ma première réaction doit être louange et remerciement. Si je vois tant de bonté dans l'univers,
Si je vois tant de beauté dans ma vie, quelle doit être ma réaction? Louange et remerciement. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Moi, je voudrais vous encourager à mieux voir la louange et la reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Je suis triste, mais en même temps, je le constate ici à Marolles ou ailleurs dans d'autres églises, que beaucoup de gens restent silencieux dans le moment de louange et dans le moment de la reconnaissance. C'est un constat ici ou ailleurs. Hein, ne vous inquiétez pas, même si vous allez ailleurs, il y a beaucoup d'autres personnes qui se taisent quand vous allez dans les églises. Alors, certaines personnes vont vous dire, ben non, je suis timide. Ça se soigne, la timidité, paraît-il. Je suis timide, j'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à ceci, j'ai du mal à cela. Vous savez, tout simplement pour dire merci. Il n'y a pas besoin de faire l'ENA. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller dans une université pour dire merci. Hein. C'est une chose qui se perd aujourd'hui dans notre société. Ouvrir la porte d'une personne, vous savez, quand vous arrivez dans un lieu public et que vous voyez une dame qui vient vers vous, et j'ai vu des hommes ouvrir la porte et passer devant, hein, qui importe tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Hein. Oui, ça se perd, hein, cette chose-là. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devrions la manifester, cette bonté, dans la louange et dans la reconnaissance. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de réfléchir un petit peu sur les attributs de Dieu. J'en ai noté quelques-uns. Je me suis arrêté, parce que j'ai dit, c'est long, hein, vraiment long, les attributs de Dieu. Un attribut de Dieu, c'est quelque chose qui le caractérise. Vous savez, quand on est déprimé, quand on est découragé, moi je vous encourage à le faire, à la maison. Demain, si vous êtes découragé, vous prenez une feuille blanche, vous faites ce que je viens de faire là, donc vous marquez attributs de Dieu, et puis, d'un côté, vous marquez tous les attributs de Dieu que vous connaissez dans votre tête. Je vais vous en citer quelques-uns. Auto-existence, donc il est la vie, il est éternel, il est infini, omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout, omniprésent, il n'est pas limité dans l'espace, immuable, il peut changer une action ou une entreprise, il est souverain, amour, grâce, souveraineté, sainteté, vérité, sagesse, patience, et je pourrais rajouter des tas de choses. Et vous savez ce que vous faites, hein? Vous mettez les attributs de Dieu d'un côté, et puis en face, hein, vous en mettez un peu quelques-uns, vous. C'est-à-dire de se dire, comment je vais réagir, moi, devant cet attribut de Dieu? Est-ce que je suis quelqu'un qui est amour, comme Dieu est amour? Est-ce que je suis quelqu'un qui est sagesse, comme lui est sagesse? Est-ce que, dans ma vie, est-ce que je suis sainteté, comme lui est sainteté? Vous voulez que je continue un petit peu? Vous savez, ça vous fait vite réfléchir à votre découragement et à votre déprime. Hein. Quand on met les attributs de Dieu et que vous les mettez, vous, en face, eh bien, bien vite, le découragement s'en va assez rapidement, je dois bien l'avouer. Donc, passons du temps à louer et à remercier le Seigneur. Deuxième réaction, c'est la repentance. Je pense que c'est un mot qui se perd aujourd'hui. Parce que ce mot, bien souvent, certains disent qu'il est vieux, il est ancien, ce mot. Mais il est dans la Bible. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions apprendre à nous repentir. Repentir de nos mauvaises actions. C'est pas parce que vous avez accepté Jésus que maintenant vous êtes un être parfait. C'est pas le cas. Et c'est pas parce que l'Esprit vit en vous que vous êtes un être parfait. Donc si vous n'êtes pas un être parfait, eh bien nous devrions nous rappeler ce que l'apôtre Paul disait aux Romains. Où méprises-tu la richesse de bonté, de patience et de longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté te pousse à la repentance. Nous avons besoin parfois de nous mettre au pied de la croix. Nous avons besoin parfois de nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Nous avons besoin parfois de ne pas mépriser la bonté de Dieu. Je dis, c'est un mot qui est fort, n'est-ce pas? Mais s'il est dans la Bible, c'est pour vous secouer. Parce que beaucoup de chrétiens ont l'Alzheimer spirituel. Vous connaissez l'Alzheimer? C'est une maladie qui est grandissante dans notre société. Et je sais que vous-même, peut-être, vous redoutez cette maladie. Mais combien nous oublions parfois la bonté de Dieu dans notre vie. Il n'y a pas besoin d'être malade pour cela. Il n'y a pas besoin d'être malade pour cela. Troisième réaction, c'est les gestes de bonté envers les autres. Le Seigneur dit, ben voilà, moi j'ai agi avec vous, j'ai agi envers la création, j'ai agi avec l'humanité envers, avec une grande bonté. Ben vous aussi, vous devez avoir cette vie de grande bonté dans votre quotidien. C'est ce que Paul va dire aux Colossiens. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous du sentiment de compassion, de bonté, pardonnez-vous réciproquement. Vous savez ce que ça veut dire revêtir? C'est de changer d'avis. La Bible nous dit que le fait de vous revêtir de ce sentiment de compassion, de bonté et de pardon réciproque, c'est de se changer d'avis. Laissez-moi vous montrer quelques manifestations de la bonté de Dieu dans la Bible. Des personnes qui ont changé d'avis. C'est pour ça que je vous ai posé cette question au début. Est-ce que vous voyez bien? Vous connaissez la vie de Joseph? C'est un exemple dans la Bible. C'est un des livres que j'apprécie le plus. Enfin, une des histoires, pardon, que j'apprécie le plus dans la Bible. Parce que quand on le regarde dans son ensemble, les frères de Joseph, jaloux de lui, veulent le tuer à un moment donné. Puis, ils décident finalement de le vendre aux marchands égyptiens qui passaient par là. Joseph va être emprisonné, mais il va être gracié par Pharaon et il va être élevé au deuxième poste après Pharaon. Joseph va retrouver ses frères bien des années après, parce qu'à un moment donné, une famine va surgir dans le pays et ils ont besoin de manger, donc ils vont aller en Égypte parce qu'ils ont entendu qu'en Égypte, il y a de l'abondance, donc allons en Égypte. La réaction de Joseph. Voici la réaction de Joseph que vous devriez, vous comme moi-même, m'inspirer. Vous avez médité à me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Waouh! Je ne sais pas si vous avez un frère en Égypte, mais si vous en avez un, allez-y, voir s'il est riche, s'il est à la deuxième place après le roi, mais quand même, ça laisse quand même à réfléchir. Dans nos attitudes vis-à-vis d'une personne qui nous fait du tort, d'une personne qui nous fait du mal, d'une personne qui parfois nous haït littéralement ou nous en veut, ça arrive dans notre société. Tous les êtres ne sont pas parfaits autour de chez vous. Hein. Dans votre lieu de travail, il y a des gens qui vous veulent du mal. Hein. Croire que tout le monde est bon, moi, à mon avis, vous allez vraiment vous attendre parfois à des situations. Toi, tu m'as fait du mal. Eh oui, ça arrive parfois. La bonté doit être contagieuse. La méchanceté, il n'y a pas besoin d'être contagieux. Elle est naturellement dans le cœur humain. La méchanceté, elle est dans le cœur. Il n'y a pas besoin qu'elle soit contagieuse. En tout cas, Joseph a manifesté une grande bonté vis-à-vis de ses frères et sœurs. Et moi, je pense qu'on devrait s'en rappeler de cette bonté. Il les a nourris, hein. Lui, ses enfants et bien d'autres après. Hein. Deuxième exemple, David, le grand roi David. La Bible nous dit que dans 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13, vous avez un certain Méphibosheth. Je ne sais pas si vous connaissez ce Méphibosheth. Il était perclus des pieds, nous dit le texte de la parole de Dieu. Il était le fils de Jonathan, ami de David et petit-fils de Saül. À sa mort de ce dernier, Méphibosheth était un handicapé. Donc il a coulé douce. Il ne savait pas la réaction de David. Il a dit maintenant, David va être roi, qu'est-ce qu'il va me faire celui-là? Eh bien la Bible nous dit clairement qu'à un moment donné, David voulait rendre grâce, non pas à Méphibosheth, il voulait rendre grâce parce qu'il était le fils de Jonathan, le petit-fils de Saül. Et comme il était ami avant de mourir, eh bien, il a voulu lui faire grâce. David va le convoquer et va lui dire, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. David va rendre à Méphibosheth toutes les terres du roi Saül et il va l'inviter à sa table tous les jours. Tous les jours de sa vie, David va l'inviter à sa table. C'est pas de la volonté, ça. On dit souvent que dans une période ancienne, on laissait toujours une assiette en plus sur la table. Je ne vous fais pas de surprise visite, je dirais, voilà, comme ça, en principe, quand je vous fais les visites, je vous les fais, je vous téléphone et je vous dis quand j'arrive, en règle générale. Ça m'est déjà arrivé de faire des visites comme ça, mais bon, c'est rare. Mais en attendant, je me dis, je devrais apprendre à faire des visites pendant l'heure du repas. Savoir si vous avez mis l'assiette en plus sur la table. Alors, tiens, viens le pasteur. Oh, pasteur, j'ai mis une assiette pour toi. J'étais inspiré ce matin. J'ai mis une assiette pour toi à ma table. Je vous rassure, je ne ferai pas ça. Mais je voudrais quand même vous dire que à une époque en arrière, on faisait cela. On avait les portes ouvertes. Maintenant, on les ferme, les portes. Hein, parce qu'on a peur des voleurs. Mais à l'époque, les portes étaient ouvertes. On accueillait les gens. Il n'y avait pas de problème d'inviter Pierre, Paul ou Jacques, même s'il était un perclus des pieds, même si c'était quelqu'un qui était un handicapé, quelqu'un qui n'était pas bien, David l'a invité tous les jours à manger à sa table. La Bible nous parle aussi de la parabole du bon samaritain, Luc chapitre 10. La Bible aussi nous parle, de Lydie, acte chapitre 6. Et de Lydie, on nous a dit ceci, Lydie, marchande de pourpre dans la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit la demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa pour ses instances. Donc quelque part, elle a voulu manifester sa bonté, comme Dieu avait changé sa vie, et elle a voulu manifester sa bonté en accueillant Paul et Silas en les hébergeant. Mais si vous connaissez bien le texte, Lydie fut la première personne qui a ensemencé l'Europe par la suite. C'est-à-dire, grâce à Lydie et à sa famille, eh bien, l'évangélisation va grandir dans l'Europe en entier grâce à la conversion de cette personne. Voyez-vous, bien souvent, on ne prend pas conscience quand on reçoit une personne ce que le Seigneur peut changer par rapport à la situation. Et bien souvent, comme le Seigneur le dit, eh bien, nous devrions agir comme un boomerang. Vous savez ce que c'est un boomerang? C'est un instrument que vous envoyez et qui va revenir automatiquement chez vous. Ça m'a fait penser à Proverbes chapitre 11, verset 25. Celui qui arrose sera lui-même arrosé.
si vous manifestez de la bonté, ben, automatiquement, vous allez manifester dans votre vie de la bonté. Si vous avez reçu de la bonté, vous allez manifester de la bonté vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Je vous repose cette question ce matin. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous avez besoin de lunettes? Est-ce que quand vous lisez la parole de Dieu, est-ce que vous avez besoin de bien les mettre en face? Est-ce que vous avez besoin, comme je le fais de temps en temps, de les essuyer pour mieux voir? Parce que ça, c'est la bonté de Dieu, que je viens de lire ce matin. John Wesley était un homme de réveil et un fondateur de l'Église méthodiste. Il y a eu un grand réveil à sa période. Et il avait une règle d'or dans sa vie. Faites pour tous les autres tout ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. Je répète. Vous connaissez ces versets? Faites pour tous les autres tout ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. Matthieu chapitre 7, verset 12. Vous voulez de la bonté dans votre vie? Vous manifestez aussi de la bonté vis-à-vis des autres. Vous voulez recevoir? Vous voulez que Dieu vous bénisse? Vous savez ce que j'ai fait cette semaine, lundi matin? La première des paroles que j'ai dites quand je suis arrivé dans mon bureau, parce que comme je savais que j'allais étudier la bonté, eh bien j'ai dit, Seigneur, manifeste de la bonté durant cette semaine. Est-ce que vous pensez que Dieu a entendu ma prière? Oui, il l'a entendu. Est-ce que vous pensez que tous les lundis je peux faire cette prière? Ça m'est déjà arrivé dans le passé, Dieu ne m'a pas entendu. Mais cette semaine, le Seigneur m'a entendu. C'est incroyable, n'est-ce pas? Est-ce qu'il fallait que je prêche la bonté pour comprendre la bonté dans ma vie? Je ne pense pas. Je voudrais juste vous expliquer comment Dieu a manifesté sa bonté. Je suis issu d'une église à Draguignan, une église évangélique baptiste à Draguignan. Je suis né spirituellement dans cette église. Cette église ne m'a jamais soutenu financièrement. Un peu au début, quand je suis parti à l'Institut biblique, elle a manifesté donc sa bonté à un moment donné quand je suis sorti. Mais depuis, plus rien. Plus rien. La radio était terminée, finie. La bonté, finie, terminée. Et voici que cette semaine, le pasteur m'a envoyé un petit mot en me disant simplement: Nicolas, l'Église a décidé à l'Assemblée Générale à l'unanimité de te soutenir fidèlement tous les mois de 50 euros. C'est pas de la bonté, ça? Et je me dis, le temps de Dieu n'est pas forcément le nôtre de temps. Dieu sait exactement quand nous en avons le plus besoin. Et je pense qu'à un moment donné, cela montre bien que Dieu va réagir vis-à-vis de nous à un moment donné, de manière extraordinaire, de manière spectaculaire même parfois, mais au bon moment, au moment où nous en avons besoin. Il ne va pas donner quand vous n'en avez pas besoin. Il va vous donner quand vous en avez le plus besoin. Et je pense que nous avons besoin, nous aussi, de nous le rappeler. Alors, est-ce que vous voyez bien? Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. John Wesley avait un adage. Faites le mieux que tu peux. Fais le mieux que tu peux. Par tous les moyens que tu peux. Pour tous les gens que tu peux. Tout le temps que tu peux. On va terminer par le chant que vous avez chanté au début. J'ai chanté avec vous ce chant. Le 429, on va le rechanter, si vous voulez bien, parce que ça illustre bien la bonté de Dieu.